passer. Tout peut déboucher pour de bon sur les flics ou sur la prison. J'ai subi quelques beaux parleurs qui refaisaient le monde à l'envie. Je refaisais en un quart d'heure le pouvoir au bout du fusil. J'en ai connu qui avaient du cœur et qui m'ont fait changer d'avis. Moi qui ne suis qu'un emmerdeur, profiteur, cynique et pourri. Et toi, tu crois que tu peux changer les choses? Tu crois que tu dois risquer la mort? Moi, je suis là, je chante encore, je ne risque que la cirrhose. Mais pense avant de commencer ce que tu peux casser. Tout peut déboucher sur du sang, sur du bordel ou du néant. Dérapées 10 années depuis le joli mois de mai. Elles sont chargées d'emmerdements, elles sont à peu près comme avant. Et y a tous ces gens pleins d'espoir qu'on croise un peu sur les trottoirs. Ils ont les cheveux pleins de vent, ils font le grand machin dedans. Et vous, à tous.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, un cœur rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est clair et net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins qu'à celui lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, la voix de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, la voix pour de la preuve. La rage, je vous...
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur internet pour le reste du monde. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Mariama. Bonjour Mariama.
Bonjour.
De François. Bonjour.
Salut.
François. Et de notre invité, Christophe Darmanjat. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Donc on te reçoit pour une de tes récentes publications qui s'appelle Casus Belli, la guerre avant l'État. Nous t'avons déjà reçu à deux reprises pour le livre sur...
Un dangereux récidiviste.
Voilà, tu es un dangereux récidiviste. Pour le livre donc, sur le communisme primitif n'est plus ce qu'il était... mais on va dire que tout le monde ne te connaît pas malgré ta grande célébrité.
Est-ce que toute relative tout de même.
Est-ce que tu pourrais te représenter rapidement pour qu'on sache qui tu es?
Alors bien en deux mots, mais je suis un anthropologue social. Je suis devenu un anthropologue social sur le tard, c'est-à-dire que je m'intéresse aux sociétés humaines et en particulier aux sociétés sans État, mais avec l'idée d'essayer de comprendre des choses générales, des lois un peu générales sur les sociétés humaines. Voilà.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est un livre qui parle de la guerre avant l'État, même si c'est un livre qui paradoxalement parle beaucoup plus presque de ce que n'est pas la guerre avant l'État.
Absolument, absolument.
Que de ce qu'elle est. Mais je m'étais dit, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, qu'on pourrait présenter la démarche générale du livre et au-delà de la collection dans laquelle il s'inscrit. Parce que donc, il s'inscrit dans une collection à la découverte qui est dirigée par Bernard Lahire, dans laquelle il a notamment publié les structures fondamentales des sociétés humaines. Et c'est une collection qui a un parti pris, on peut dire méthodologique, épistémologique assez clair,
oui.
Dans lequel ce livre donc s'inscrit. Est-ce que tu pourrais présenter la démarche générale et en quoi ton livre s'inscrit dans cette démarche, en fait ?
Alors, l'idée, je pense, générale de Bernard Lahire, c'est un... il l'a pas inventé, hein, c'est des idées qu'un certain nombre de gens ont déjà défendues avant lui, mais il a eu le mérite récemment de remonter au créneau là-dessus, dans un univers où justement universitaire, où ces idées-là ont pas forcément beaucoup la cote. Mais l'idée générale, c'est justement d'essayer de s'intéresser à des lois, à des régularités, enfin on peut le formuler comme on veut, mais d'essayer de se dire que étudier les sociétés humaines, pour commencer, c'est pas simplement faire une suite de cas particuliers, et c'est essayer de trouver des grandes généralités, voilà, enfin grandes ou moins grandes, mais enfin en tous les cas d'essayer de faire réellement, disons, une science, voilà. Alors ça, c'est la première chose, et la deuxième chose sur laquelle lui a beaucoup insisté, et où là encore une fois, bon, science, c'est toujours compliqué de dire que c'est quelqu'un qui a eu le premier l'idée, mais en tous les cas, lui, il a eu le mérite de le mettre en avant et de le synthétiser. C'est l'idée de dire que non seulement il faut étudier les sociétés humaines et toutes les sociétés humaines pour les comparer et du coup pour essayer de voir comment ça fonctionne tout ça, mais qu'on peut et on doit aussi les comparer aux sociétés animales. Les humains n'étant qu'une espèce animale parmi d'autres. Enfin, et d'ailleurs, je dis animal, mais en réalité, c'est espèce vivante, même d'une manière plus générale. Et essayer de voir, justement, par cette comparaison la plus large possible, bah, qu'est-ce qui est éventuellement spécifique aux sociétés humaines, qu'est-ce qui est finalement un trait plus général du vivant, etc., etc. Et donc voilà, c'est ça le parti pris général de la collection. Alors après, dans cette collection, bah, y a des livres qui se situent complètement là-dedans, d'autres beaucoup moins. Le mien, je dirais que c'est un peu un travail intermédiaire de ce point de vue. Il y a un gros focus sur les sociétés humaines. Après, en quelques pages, j'essaye d'esquisser une comparaison avec ce qui se fait dans d'autres sociétés, avec ne serait-ce qu'une question toute bête, c'est est-ce que les animaux font la guerre ? Voilà. Disons que moi, j'ai beaucoup moins mis l'accent sur cet aspect que lui n'a pu le faire dans son propre bouquin.
Et alors, c'est vrai que même si, donc je suis d'accord avec toi que par rapport à d'autres bouquins de la collection, il s'inscrit un peu, on va dire, aussi radicalement dans la comparaison inter-espèces, il y a quand même cette idée que ces lois, ces invariants, et on veut les étudier du point de vue de la sociologie, mais aussi du point de vue de la biologie. Donc, il y a une belle éloge des sciences du vivant. Et il y a un autre bouquin, alors il me semble qu'il est dans la même collection, la Symphonie de Darwin, c'est dans la même collection, c'est celui qui...
Kevin Lalande ?
Oui.
Oui, alors je ne l'ai pas lu, donc je
Ah non, c'est pas pour...
j'en parlerai très peu.
Non, non, c'est pas pour en parler, mais c'est pour dire que c'est un livre qui tend à répondre à quelque chose qui est pour moi fondamental d'aborder avant même qu'on aille sur le contenu du livre aussi, c'est que les comparaisons interespèces, et surtout quand on fait des comparaisons qui font appel à des sciences comme la biologie, souvent, dans le sens commun, pas forcément dans l'état scientifique, mais dans le sens commun, on a tendance à voir la biologie, les choses dites naturelles, comme des choses figées, immuables dans le temps, qui s'opposeraient aux choses sociales, qui, elles, seraient variables, ou etc. Et je pense que ça aurait... pour formuler la question, on va dire... dans un lien directement avec le livre sur le concept de guerre, c'est aussi montrer qu'en fait, quand on parle de biologie, on parle de choses qui peuvent évoluer aussi, même quand on étudie.
Oui, absolument. Alors, une grande idée du bouquin de Bernard Lahire, qui m'a frappé, parce que au départ, d'ailleurs, j'étais pas forcément très très convaincu par sa démarche, et j'avoue que j'ai changé d'avis. Il le formule d'une façon simple. Il dit, on confond souvent le biologique, le social et le culturel.
Ouais.
Et quand on a tendance à dire, quand il y a un phénomène, c'est social ou c'est culturel indifféremment. Et il dit que ça, c'est une grosse erreur, parce que effectivement, le côté culturel, alors c'est pas le monopole des humains, mais enfin, disons que les humains se distinguent dans le monde animal par leur capacité hyper culturelle, même si encore une fois, ils sont pas du tout on n'est pas du tout la seule espèce à être culturelle. Mais en revanche, il y a plein d'espèces sociales, et il y a plein d'espèces qui du coup ont une organisation sociale qui est étudiée depuis longtemps par les éthologues, etc. Et donc il faut pas confondre les deux aspects. Alors, si on parle alors de la guerre ou même plus généralement des affrontements, puisqu'on va y venir, il y a un truc tout bête, c'est est-ce que les humains sont les seuls créatures, les seules créatures étant évidemment un mot un peu impropre, mais enfin les seuls êtres à s'affronter entre groupes de la même espèce. C'est une question toute simple, mais qui évidemment on a envie de se poser. Bon, bah là, la réponse est clairement non. Hein, et des affrontements intra-espèces entre groupes comme ça, il y en a dans plein d'espèces sociales, à commencer par les fourmis, en continuant par les loups, et en finissant éventuellement par les chimpanzés, qui sont parmi nos plus proches cousins, et où quand deux groupes de chimpanzés se rencontrent, ça se passe toujours très mal. Voilà.
Et donc, du coup. À partir de cette réflexion donc, sur les comparaisons, tu démarres le livre sur un problème de définition, un problème de catégorie, comment est-ce qu'on nomme les choses. Donc si, ici, c'est en plus dans cette émission, je trouve que c'est un sujet qu'on a quand même abordé à travers plein d'autres exemples. Quand on essaie de nommer les choses, on se rend vite compte des limites du langage. J'imagine en plus en tant qu'anthropologue que t'es pas, doublement confronté au fait que quand on étudie une langue, par exemple d'une tribu, on va la traduire. Il y a toujours le fait que la traduction dans un autre dialecte va imposer tout un tas de charges conceptuelles qui ne sont pas forcément présentes dans ces tribus-là et qui ne renvoient pas aux mêmes choses que nous. Donc c'est un premier problème et du coup ça pose le problème de la définition. En fait, comment on définit la guerre, en fait, finalement ?
Absolument. Alors ça, c'est un problème très, très général en science. On a des mots, nous, dans notre langage courant, qui correspondent à un découpage pas forcément absurde de la réalité. Enfin, en gros, la réalité telle qu'on l'aperçoit, ben, on a fait des découpages, on a collé des mots dessus, et puis voilà. Alors, quand on se met à étudier des réalités complexes, comme par exemple la physique, Tout de suite, on se retrouve devant le fait que on a des phénomènes pour lesquels on n'a pas de nom. Vous voyez, le jour où on découvre l'électron, jusqu'à maintenant, on savait pas que ça existait. Voilà. Donc, on crée un nouveau mot. Et puis après, on va parler de particules alpha, de particules bêta, de tout ce que vous voulez, de rayons gamma, de tout ce que vous voulez. En biologie, on a eu un problème un peu intermédiaire parce que dans un premier temps, on avait des noms d'espèces qui étaient les noms habituels. Hein. Tout le monde sait, adieu, veau, vache, cochon, poulet, etc. Ben voilà, on a des. Le jour où on fait de la biologie, j'allais dire, sérieuse, on est très embêté parce que ces noms du langage courant correspondent en fait très approximativement au vrai découpage scientifique. Et du coup, il y a eu besoin de toute une refonte du vocabulaire. Et au passage, ça a été tellement radical qu'on a dit on va éviter d'utiliser les mots du langage courant. Et crac, on va refaire toute une classification en latin pour qu'il y ait plus d'ambiguïté et pour qu'on sache de quoi on parle. Bon. Alors, le grand problème avec les faits sociaux, à mon avis, c'est qu'on a forcément des noms qu'on a mis dessus, alors ça vaut pour à peu près tout ce qu'on veut, ça vaut pour la guerre, mais même si on dit, je sais pas moi, aristocratie, féodalisme, société de classe, tout ce que vous voulez, on a l'impression qu'avec ça, bah, on va appréhender un certain nombre de réalités, et dans une certaine mesure, c'est pas faux, comme on dit dans les bons colloques, mais en fait, une bonne partie du boulot scientifique consiste à se rendre compte que tout ce que ces dénominations ont d'imprécis, de vague, de polysémie, enfin voilà, et de se dire mais en fait il faut essayer de casser ce mot-là, de se rendre compte qu'il y a plein de réalités différentes et de se demander comment on va réorganiser tout ça pour s'y retrouver. Et en fait, en science, je pense qu'une fois qu'on a bien rangé les choses, il y a plein de raisonnements qui coulent tout seuls ensuite. Et que le problème des raisonnements compliqués ou difficiles ou qui marchent qu'à moitié, c'est qu'en fait, au départ, on travaille avec des catégories qui sont pas bien taillées. Voilà. Donc effectivement, moi, dans le bouquin, le premier mouvement, c'est de se dire, on est tombé dans des sociétés, disons, lointaines, sur des formes d'affrontements bizarres, et notre premier réflexe, ça a été de les ramener à ce qu'on connaissait, donc à la guerre. Et on a dit, ah oui, mais quand même, c'est pas des guerres bien orthodoxes, tout ça. Donc, le truc classique des archéologues ou des anthropologues, c'est de la guerre rituelle ou ritualisée. Alors ça, c'est le mot de joker, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bon, on est planqué, on a dit, oula, c'est de la guerre, mais quand même, elle est pas bien normale, cette affaire-là. Mais en fait, on n'a rien dit du tout. On a juste dit que c'était bizarre. Alors ça m'est pas venu comme ça en me levant, voilà, enfin, c'est la suite d'un certain nombre d'années de boulot et de réflexion, mais à un moment donné, je me suis dit, cette histoire de guerre rituelle ou ritualisée, il faut complètement oublier, et il faut se mettre à essayer de comprendre tous ces affrontements, de quelles catégories ils relèvent, comment on pourrait les ranger, quelles sont les bonnes questions à leur poser pour comprendre de quoi ils retournent au juste.
Et alors, on en vient du coup au début où on commence à essayer de définir le concept de guerre. Et tu poses cette question, tu dis, mais si toute guerre est un conflit homicide entre groupes, réciproquement, est-ce que tout conflit homicide entre groupes est une guerre?
Et bon, absolument.
Tout, ouais. Voilà, tout le livre s'attache à répondre que
exactement.
Non.
En fait, exactement. Voilà. Tout... Alors, on peut prendre un exemple très frappant. Hein, dans les Andes, depuis un certain nombre de siècles, alors là, en ce moment, il paraît que dans un certain nombre de coins, notamment en... Evo Morales, c'est en Bolivie, je dis pas de bêtises, il paraît qu'il est en train d'essayer de mettre un peu un terme à ça. Mais enfin, en tous les cas, il y a une pratique qu'ils appellent le Tinku, où tous les ans, deux villages ou deux moitiés de villages se rencontrent. Et puis là, après quelques festivités où les esprits commencent à s'échauffer, les hommes sont armés avec des espèces de massues, et on se tape dessus. Alors évidemment, c'est pas des revolvers, c'est pas des chars, c'est pas tout ce qu'on veut, mais enfin, il y a quand même des bras cassés, des jambes cassées, des crânes ouverts et des morts. Voilà. Ah. Et pourquoi on fait ça?
C'est l'équivalent des CRS chez eux, quoi.
Alors non, parce que le but n'est pas du tout le même. Là, d'abord, c'est pas une force armée distincte de la société, c'est vraiment deux villages qui se rencontrent. Et le but, c'est que le sang coule. Parce que Pachamama, qui, comme chacun sait, est la bonne divinité de la terre qui fait pousser les récoltes, etc., ben Pachamama, elle est bonne, mais elle a soif, et donc il faut lui donner à boire, etc., chaque année. Donc face à un truc, évidemment, ça dure l'après-midi, et puis le soir, on se quitte bons amis, et on ne venge pas les morts qui ont été... voilà, c'est pour la bonne cause, hein, good game, hein, comme on dit au rugby, et on recommencera l'année prochaine. Donc face à un bidule comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le réflexe standard, disons, de l'anthropologie, c'est de dire, voilà, c'est de la guerre rituelle. Voilà. Mais en fait, c'est pas de la guerre du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait quand on fait la guerre. Quand je dis nous, c'est pas juste la France de 2025. C'est, disons, l'ensemble des sociétés étatiques de classe depuis quelques milliers d'années. Donc tout le boulot, c'est de se dire
surtout les hommes.
Ah ben alors là, par contre, dans les forces combattantes, c'est à 99,999%, c'est très masculin cette affaire-là.
Mais les Sabins, c'était pas des Sabines.
Absolument, hein, absolument. Voilà. On enlève les Sabines, mais ensuite c'est les Sabins qui se battent. Alors en tous les cas, moi mon boulot, ça a été de me dire, prenons cette affaire au sérieux, essayons de voir en quoi la guerre et le Tinku, par exemple des Andes, ça se distingue, et essayons de construire des critères, des principes qui permettent de classifier tout ça, encore une fois, pas pour le pur plaisir de ranger les choses, mais pour comprendre la logique dans laquelle ça s'inscrit.
Et alors dans le livre, tu prends directement la décision de t'employer à distinguer guerre et feutre, qui sont des concepts très utilisés en anthropologie, notamment aussi pour distinguer la guerre de la notion de justice. Et alors je veux ça, est-ce que tu prends le parti pris de commencer par cette distinction parce que c'est un livre qui s'adresse plutôt à un public scientifique, ou même dans une démarche plus large, tu aurais quand même pris ce parti pris de commencer avec guerre et feu?
Alors le feu, pour parler pour l'auditeur qui est pas forcément au courant des grandes discussions anthropologiques, c'est un truc qui porte plein de noms. Les médiévistes appellent ça la FED parce qu'il y a un mot français, mais plus personne sait ce que ça veut dire parce que ça fait 800 ans qu'on le fait plus, donc on n'emploie plus le mot. On pourrait parler de vendetta, ça marche assez bien aussi, voilà. Alors ça, c'est la seule forme, disons, de combat entre groupes qui n'est pas la guerre et qui a été identifié classiquement par les politistes, les historiens, les tout ce qu'on veut, parce qu'on est tombé dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc, voilà. Donc, classique. J'ai commencé par ça parce que, en gros, il m'a semblé que jusque-là, on a distingué la guerre, le feu de la fête de la vendetta, voilà. Et puis tout le reste, voilà. Et on en était en gros à peu près là. Voilà. Donc j'ai commencé par ça parce que c'était la seule forme vraiment identifiée qui n'est pas la guerre. Encore que c'est identifié, mais alors après quand on rentre dans la question délicate de en quoi la vendetta n'est pas une guerre et en quoi la guerre n'est pas une vendetta, on met le doigt dans des discussions extrêmement compliquées. Et là, moi, je me suis appuyé sur un collègue qui s'appelle Bruno Boulestin et qui a proposé un critère qui me semble bien fonctionner entre les deux.
Et alors, tu rappelles au fil du livre plusieurs fois, et à juste titre à mon avis, que le principe même quand on entreprend un processus de classification en sciences sociales, quel qu'il soit, c'est qu'on va essayer de classifier en utilisant des catégories qui renvoient au principe essentiel des objets qu'on analyse,
ouais.
Mais qu'on trouvera rarement, voire jamais, de manière chimiquement pure dans le monde social, et qu'on trouvera des états intermédiaires. Alors tu prends l'exemple du changement de la matière et de son état, ouais. Pour faire un comparatif, pour expliquer que c'est un peu la même chose dans le social.
Ben, on a le problème dans toutes les sciences, hein. On fait des catégories, et si on ne fait pas de catégories, on ne peut pas faire un raisonnement scientifique. Donc voilà, même quand je dis « tiens, j'ai vu un chat », ça paraît tout bête, mais en réalité, on fait une abstraction, parce que du coup, on décide que le chat de ma voisine, c'est la même bestiole que, enfin, ou le même genre de bestiole que le chat de concours, etc. Et pourtant, le chat de concours, il a les poils longs, il est très beau, etc. Le chat de ma voisine, il est tout pouilleux, et voilà. Bon, bah. Mais tout ça, il y a un certain nombre de caractéristiques en commun qui font que je peux parler d'un chat, et ça a du sens. Voilà. Bon. Donc, on a la même chose avec, comment dire, avec les phénomènes sociaux. Et évidemment, dès qu'on fait des cases, bah, la réalité, elle est mouvante, elle est changeante. Comme disait le vieux sage, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Les espèces vivantes, bah, elles se transforment perpétuellement les unes dans les autres, etc. Il y a un truc qui s'appelle l'évolution. Donc, où commence une espèce, où en finit une autre, bah, quand on regarde en gros de loin, c'est facile. Et quand on regarde de près, bah, ça devient plus compliqué. Bon, bah, voilà. Et donc, dans le monde social, on essaye de faire des catégories tout en se faisant pas trop d'illusions sur le fait que dans la réalité, évidemment, qu'il y a des choses qui sont à cheval sur les catégories. Mais, comment dire, c'est pas pour conclure que tout est dans tout et que rien n'en a rien et réciproquement, les catégories nous aident quand même à nous y retrouver parce que même si les choses sont peut-être pas chimiquement pures à 100%, il y en a quand même qui sont pures à 99% et du coup on voit quand même bien la différence, bah tiens, entre la guerre et la vendetta, entre la guerre et le tinku dont je parlais tout à l'heure, et il faut quand même comprendre que ces choses-là, bah c'est pas la même chose et les gens qui le font, ils ont pas les mêmes objectifs, et pas les mêmes façon de régler leurs problèmes quand ils se lancent dans ces différentes choses-là. Voilà.
Alors, pour nos auditeurs qui se demandent pourquoi est-ce qu'on continue à parler de questions de méthode et qu'on n'est encore pas rentré dans le contenu même du livre, moi je...
C'est parce que l'intervieweur l'a décidé.
Voilà. Et en fait, si vous voulez pas que ce soit comme ça, faut faire une émission à ma place.
Exactement.
Et donc, d'ici là, on va continuer avec une autre question quand même. C'est comment on se prémunit quand on a cette démarche, que je trouve, pour ma part, j'aime bien donner mon positionnement, parce que comme ça, ça permet de savoir pourquoi je pose certaines questions. Voilà, personne n'est neutre, et donc moi non plus. Moi, j'avoue que c'est une méthode qui, à la fois, m'a intrigué et intéressé quand je l'ai découverte, mais dont je reste sceptique sur un certain nombre d'aspects. Et un des aspects sur lesquels je voulais t'interroger, du coup, c'est comment on se prémunit que notre classification ne vienne pas à empiéter sur notre compréhension particulière des phénomènes en eux-mêmes, en fait.
Tu veux dire, comment est-ce qu'on pense que la classification, c'est pas justement une espèce de truc ethnocentrique où on ramène les choses à des catégories qu'on a déjà dans notre tête ou
Oui, c'est une manière de reformuler. Et puis aussi, oui, du fait de comment on disait, bah, en fait, comme tu l'as décrit, quand les anthropologues se sont ramenés dans des tribus qu'ils ne connaissaient pas, ils ont dit, bon, bah, ça, c'est la guerre. Bon, c'est la guerre ritualisée, mais voilà. Ils ont pris leur catégorie, ils l'ont imposée.
Oui.
Au final, toi, t'as fait une classification sur laquelle on reviendra en deuxième partie de l'émission, qui est très intéressante, mais C'est une classification avec des catégories plus sophistiquées, plus réfléchies, avec une vraie méthode, mais qui, dont on pourrait se dire, oui, mais comment on se prémunit si on découvre des phénomènes sociaux nouveaux, par exemple, de ne pas refuser de voir leur nouveauté, de dire, bah non, ça, ça rentre déjà dans telle catégorie. Comment on s'assure voilà, que notre classification n'empiète pas sur notre compréhension?
C'est vraiment une très bonne question. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Au fur et à mesure que je bâtissais ma classification, je ne saurais pas mieux le dire qu'en disant on sent que ça marche ou on sent que ça marche pas bien. Alors je sais bien que c'est pas une réponse très satisfaisante, voilà.
Comme ça,
mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que un, on peut pas se satisfaire d'arriver avec nos catégories à nous. Ouais. C'est-à-dire en gros, il y a la guerre. Et puis c'est tout, hein, parce que nous, dans nos sociétés, en gros, quand deux groupes se tapent dessus en faisant des morts, ça s'appelle la guerre. Hein, voilà, il n'y a pas tellement d'autres trucs. Enfin, on voit bien qu'il y a d'autres trucs qui se font dans les coins, mais qu'on ne sait pas très bien comment nommer, mais enfin, voilà. On ne peut pas non plus se contenter de prendre les dénominations des autres. D'abord, sinon, il y a eu un jeu de dénomination par société qu'on visite. Oui, voilà. Et donc, au bout d'un moment, bah, évidemment, le but, c'est d'arriver, bon, c'est d'arriver à trouver un point, comment dire, un point de vue objectif qui n'est donc pas soumis à chaque point de vue particulier et qui permette de, exactement comme en biologie, chaque société a fait ses découpages dans son langage vernaculaire, et ben la biologie scientifique, elle essaye de trouver un découpage objectif. Alors moi, c'est compliqué, hein, l'administration de la preuve, comment dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Moi, j'ai le sentiment que mon découpage permet de s'y retrouver et permet de percevoir des logiques profondes qui sont derrière tout ça. Après, je peux évidemment pas exclure qu'on tombe sur des cas un jour qui... alors, j'ai essayé, moi, de me balader le plus possible, de le lire le plus possible et de traiter tous les cas bizarres sur lesquels je suis tombé. Je n'ai évidemment aucune preuve d'être d'avoir fait le tour de la question et de ne pas en avoir laissé de côté. Mais c'est tout ça est très compliqué effectivement parce que on voit bien ce vers quoi on doit tendre, mais la garantie qu'on a suivi le bon chemin, que la méthode et que le résultat sont bons, je ne connais pas de recette formelle pour m'en sortir. Donc j'ai pas de réponse à ça, hormis il me semble que ça marche bien, mais après, bah, la discussion est ouverte et c'est aussi comme ça qu'on fait de la science.
Pour pas non plus me placer dans la position un petit peu facile, je trouve, de la personne qui se contente de poser des questions, j'ai pas plus de réponses que Christophe à cette question, mais je la pose parce que je l'estime qu'elle est intéressante.
Et on peut aussi critiquer une théorie scientifique quelle qu'elle soit en disant elle pose tel et tel et tel problème, même si on n'a pas les réponses. Aujourd'hui, les physiciens sont confrontés à un certain nombre de problèmes liés, par exemple, à ce qu'ils appellent la matière noire, etc. Celui qui répondrait « Oui, mais t'es bien gentil avec ton problème, si t'as pas la solution, ça nous intéresse pas. » Parce que c'est trop facile de critiquer. c'est pas ça la science. Science, ça consiste aussi à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc là, moi, il me semble encore une fois que ma classification marche mieux que celles qui ont été proposées jusque-là, qu'elle va plus loin, qu'elle montre des logiques sociales qu'on n'avait pas forcément perçues, en tous les cas aussi nettement. Après, encore une fois, l'idée c'est d'engager la discussion, et s'il y a des collègues qui pensent que ça ne fonctionne pas, ou pas bien, pas assez bien, allons-y et discutons.
Je voulais poser une dernière question avant de passer directement à la dite classification. Pareillement, quand je disais que j'étais intéressé par la démarche qui est celle aussi de Bernard Lehr, mais donc qui a été la tienne dans ce livre, je disais que oui, je trouve que c'est intéressant d'essayer de fonder une science avec qui propose de montrer des invariants, des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Je trouve ça très intéressant. Et par ailleurs aussi de proposer des classifications quand même des phénomènes sociaux. Je trouve aussi que ça fait partie du travail scientifique. Mais la question c'est, est-ce que tu arriverais à nous expliquer l'intérêt de faire ça au-delà de juste fonder la science en tant que science et d'imiter un peu les sciences du vivant? Genre, qu'est-ce que ça peut nous servir conceptuellement ou scientifiquement pour, par exemple, des chercheurs qui viendront après toi, qui s'empareraient de ta classification, tu vois, au-delà de juste avoir une classification toute faite alors, et fonder une science, c'est quoi l'objectif poursuivi, quoi ?
Alors, il me semble qu'on peut voir spontanément au moins deux choses. Alors, un quand on regarde vers le passé, deux quand on regarde vers l'avenir, quoi, voilà. Alors, quand on regarde vers le passé, bah, déjà à comprendre que tout conflit entre groupes humains n'est pas de la guerre, au sens strict, et qu'il y a donc d'autres types de conflits, et que donc quand on fait de l'archéologie de la préhistoire, etc., etc., et qu'on trouve des gens qui se sont butés les uns les autres, on saute pas immédiatement sur l'idée c'était de la guerre. Voilà, et qu'on comprenne que ça pouvait être d'autres genres de choses que jusque-là on a mal compris, mal identifié, parce que on les a mal classés. Enfin, ça revient au même, en fait. Mmh. Hein, voilà. Bon. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est de comprendre que justement toutes les formes que moi j'ai pu identifier n'existent pas dans toutes les sociétés, et en particulier, bah, je suis sur une radio qui attache à l'État un rôle essentiel dans l'histoire des sociétés humaines. Et ça, j'essaye de l'expliquer un peu longuement dans le bouquin. L'État a éradiqué tout un tas, l'immense majorité de ces formes de confrontation, comment dire, autres que la guerre. Ce qui fait d'ailleurs que nous, on a le plus grand mal du monde à les comprendre, à les identifier, etc., parce que on vit dans un univers social extrêmement appauvri par l'État et qui n'a, en gros, laissé subsister que la guerre. Et donc, l'intérêt de cette classification, c'est aussi de comprendre qu'il y a des formes qui sont typiques de certaines sociétés et qui disparaissent quand, en particulier, quand l'État s'impose et impose sa loi.
Je propose qu'on marque une première pause musicale. On viendra avec une intervention de François. Ou tu veux la faire maintenant ?
Oh, ça va pas être... Non, écoute, Christophe, j'ai pas lu ton bouquin. C'est pour ça que je suis venu en candide. Par contre, tu me dis à quoi peut bien servir de trouver la bonne classification ou une classification qui se rapproche le plus d'une chose rationnelle. Est-ce qu'un début, ça aurait pas été, par exemple... Et ça, c'est très anarchiste, en tout cas pour les pacifistes, ça serait pas de chercher un moyen de l'éviter plutôt que de la définir.
Alors,
voilà.
c'est deux niveaux un peu différents. Hein. C'est comme si tu disais, bon, ok, tu as cherché à identifier les différentes bactéries, les différents virus qui nous rendent malades, mais est-ce que le problème, ça serait pas plutôt de chercher à savoir comment on guérit les gens ? Bah, je te répondrais bien, tant que tu n'as pas identifié correctement les différentes bactéries, les différents virus, tu auras beaucoup de mal à trouver le bon remède pour guérir les gens. Alors, sur la guerre, ben, en particulier, comprendre les différentes formes d'affrontement, que tout, justement, n'est pas de la guerre, comprendre que tous ces affrontements n'existent pas dans tous les contextes sociaux, ben, ça permet, alors, évidemment, la baguette magique pour supprimer la guerre des sociétés humaines, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, ça permet de raisonner sur d'où on vient, et éventuellement où on va, et justement de voir dans est-ce que l'idéal de se dire que bah, un jour une société humaine débarrassée de tout conflit collectif, disons physique et homicide, est-ce que ça paraît raisonnable, inenvisageable ou pas, etc. Bah, j'essaye de poser ces questions-là justement à la lumière des choses qu'on peut étudier dans ce qui s'est passé dans le présent et dans le passé.
C'est vrai que là, François, t'as anticipé sur la fin du livre.
Oh merde,
ouais, attends, je sais pas comment on va faire.
Mais non, j'aurais dû le dire.
Donc c'est la fin de l'émission.
Bah, merci Christophe.
Merci d'être venu.
Voilà, on va faire une première pause musicale et on se retrouvera pour la classification générale ensuite.
Le bon matin, me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche. Pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté, paraît qu'il y avait des généraux à vendre. Mais le soleil écrasait en la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on n'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au bout du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres, quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers.
Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté,
mais le chien s'est mis à aboyer.
Alors on a laissé l'autre moitié.
Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume.
De temps en temps, il épluchait quelques légumes. Ou réparait l'escabeau, ou débouchait le lavabo. Mais il ne savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles.
Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel.
Et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant.
L'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine.
Et puis la guerre de Cent Ans quand il n'était que lieutenant.
Les croisades Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef.
Et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal.
Les Thermopyles Léonidas quand il n'était que deuxième classe.
Et Ramsès de la première guerre quand sa mère était cantinière.
Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte. Et nous, sans parler, nous rêvions de gloire.
Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait deux jumeaux à la bonne. Et puis voilà que par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans émotion inutile, sans pleurer, sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros.
À la maison, la vie a pris sans aventure.
Y a plus personne pour nous chipper des confitures.
Le général, au bistrot, avait planté un drapeau.
Pour la patrie, j'ai payé la facture.
Je ne suis plus jamais retourné au marché. Mais quelquefois, dans le ciel de la nuit d'été,
on voit briller 5 étoiles. Et ça nous fait un peu mal. On n'a jeté jamais un général.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, je suis toujours en compagnie de Mariama, François et Christophe pour notre émission sur Cassius Belli, la guerre avant l'État. Dans Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. Christophe, pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson ?
Eh bien parce qu'on m'a demandé de choisir des morceaux qui avaient un rapport avec l'émission et que, comment dire, le général à vendre, on est quand même en plein dans le sujet, avec en particulier le passage central sur l'histoire de la guerre depuis Ramsès II. Alors, au passage, la chanson dit que Ramsès II, c'était la première guerre. Et là, j'ai un désaccord, j'ai un désaccord de fond avec Francis Blanche parce que je pense que la guerre existe bien avant l'État. Voilà.
Alors, pour justement savoir si la guerre existe avant l'État, il faut donc la définir. On a posé en première partie tous les problèmes qui s'offraient à nous quand on essayait de définir des choses. Et donc, du coup, la solution que tu proposes, c'est une classification générale des conflits Bon, ici pour les sociétés humaines, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et donc, toi, tu proposes une classification à deux entrées. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que le conflit vise, oui ou non, à aboutir à une résolution du conflit? Et ensuite, est-ce que le conflit est... alors, je vais le dire avec mes mots, et puis si c'est pas bon, oui, tu me corrigeras. Est-ce que le conflit est régi par tout un tas de normes ou d'attendus entre les parties, des conventions, on pourrait dire, voilà. Ou est-ce que c'est... open bar et chacun fait ce qu'il veut.
Non, non, mais tu as bien résumé. D'ailleurs, enfin, si on repart de l'opposition entre la guerre et le tinku, là, dont je parlais tout à l'heure, la coutume andine, on voit bien que ça se situe du point de vue de ces deux questions à chaque fois avec des réponses opposées. La guerre, on l'a fait pour résoudre un différend. Hein. Théoricien de la guerre qui était Clausewitz disait « Le but de la guerre, c'est de contraindre l'autre à accomplir notre volonté par la force. » Sous-entendu, une fois que notre volonté est accomplie, il n'y a plus de raison de continuer la guerre. Alors, éventuellement, la volonté, c'est d'exterminer l'adversaire dans les cas les plus extrêmes. C'est d'ailleurs assez peu fréquent dans les guerres étatiques. Hein. Soit dit en passant, dans une guerre étatique, il n'y a pas beaucoup d'exemples où le but, c'est d'exterminer l'adversaire. Hein.
Les guerres de religion, non ?
Peut-être un peu spécial, les guerres de religion, oui. Et encore, j'en suis pas si sûr, parce que dans les guerres de religion, si l'adversaire, justement, là, on rentre dans des questions que j'ai pas creusées, hein, mais si l'adversaire finalement dit non, je me reconvertis ou je me convertis, etc.
Ah oui, il paraît vaut bien une messe. Voilà. Ouais.
Alors que, dans les guerres pré-étatiques, moi j'ai des tas d'exemples où l'objectif de la guerre, c'est de ratatiner l'adversaire jusqu'au dernier et jusqu'au nourrisson.
Ça me fait penser à une guerre.
Premier point, est-ce qu'on se bat, comme tu l'as dit, pour résoudre un conflit, avec l'idée que, une fois que le conflit sera résolu d'une façon ou d'une autre, il n'y aura plus besoin de se battre. Et donc, clairement, la guerre tombe d'un côté et le tinku tombe de l'autre, puisque le tinku, il n'y a pas de conflit à résoudre. C'est pour faire boire Pachamama, et donc tous les ans, on remet ça, quoi qu'il arrive. Et deuxième question... Est-ce que effectivement cet affrontement est encadré par un accord général, et en particulier, alors le point central de cette affaire-là, c'est est-ce qu'on s'est mis d'accord à l'avance sur comment ça finit ? Voilà, c'est parce que il y a des cas un peu hybrides où on se dit ça quand même il y a des coups interdits, c'est un peu comme dans nos guerres conventionnelles on peut se massacrer joyeusement mais quand même pas à l'arme atomique, pas à l'arme bactériologique, quand même ça se fait pas. Voilà, bon.
Par les civils,
Ah, bon ouais. Voilà. Alors ça se fait pas mais ça se fait un peu quand même, civils. Enfin voilà. le point important c'est est-ce qu'on est d'accord par avance sur le fait que quand il va se passer ceci ou cela ou que ça va être la fin de l'après-midi ou que, etc., hop, on arrête et c'est fini. Voilà, et on n'y revient pas. Donc, clairement, une guerre, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et clairement, le tinku, oui, c'est comme ça que ça se passe. Et à partir de là, effectivement, je construis un tableau à quatre entrées principales, selon qu'on répond oui aux deux questions, non aux deux questions, oui, non ou non, oui, avec ensuite, évidemment, des raffinements au sein de chaque catégorie dans lesquelles on est. Je ne sais pas si on va rentrer, parce que sinon on en a pour très longtemps, mais enfin voilà. Mais c'est ça l'idée. Et ça permet donc, à mon avis déjà, de faire des distinguos importants qui avaient parfois été plus ou moins vus, mais pas toujours avec la netteté nécessaire, me semble-t-il, et de comprendre donc qu'il y a des choses qui clairement ne sont pas du tout des guerres. Voilà.
Alors, c'est un peu technique à faire à l'oral, mais on va quand même s'essayer à cet exercice.
Rien ne nous fait peur.
donc, du coup, si on prend la guerre telle que nous la concevons dans nos sociétés modernes à nous, c'est donc, comme tu l'as dit, une guerre qui a des conventions préalablement établies, pas d'armes atomiques, pas de...
Alors ça, moi, je ne le rentre pas dans la définition de la guerre. Non, il peut y avoir... Enfin, moi, une guerre, il peut y avoir des conventions, mais s'il n'y en a pas, c'est une guerre quand même. Enfin,
voilà. Guerre, elle peut à la fois être conventionnaire et ne pas l'être.
Encore une fois, le critère absolu de la convention, c'est est-ce qu'on s'est mis d'accord à l'avance sur comment ça finit. Et de ce point de vue-là, une guerre n'est jamais... alors moi, j'ai inventé ce mot de conventionnaire parce que j'étais bien bien embêté. Je cherchais un mot pour dire on s'est mis d'accord à l'avance sur comment ça finirait. Il n'y en a pas. Voilà, ben c'est le même problème qu'en biologie quand on commence à se dire j'appelle comment dire une espèce, je vais donner tel nom. Et ben on manque de bol, le nom que j'ai dans le vocabulaire courant, il recouvre plusieurs espèces. Bon voilà.
Donc il y aurait des guerres à suspense et des guerres sans suspense.
Ben, il y a c'est des... un peu ça. Alors il y a des confrontations entre groupes humains où encore une fois les humains se sont mis d'accord à l'avance sur comment on finissait, et il y a des confrontations entre humains où les humains se sont pas mis d'accord à l'avance sur comment ça finissait. Et la guerre, par définition, on ne se met pas d'accord à l'avance sur comment ça finit. Chacun des deux essaye d'imposer sa loi. Alors des fois, bah, ça se finit par un compromis parce que c'est le bras de fer et voilà. Des fois, ça se finit par une victoire franche d'un des deux camps, etc. Mais avec l'autre qui dit que dès qu'il aura les forces, il remettra les couverts, voilà. C'est le principe de la guerre, c'est que, encore une fois, bon, moi je parle de situation, alors on peut penser, alors j'ai parlé du Tinku, mais il y a par exemple dans des sociétés, c'est très très connu, on en a trouvé plein en Nouvelle-Guinée, en Amazonie, en Australie aborigène, etc. C'est des duels judiciaires collectifs. Alors nous, les duels judiciaires, c'est... individuel, hein, c'est au Moyen-Âge, on pense à ça, etc. Mais dans ces endroits-là, en ethnologie, on en a vu beaucoup, avec plein de modalités différentes, mais c'est des groupes entiers qui se tapent dessus, mais c'est convenu à l'avance que l'affrontement va cesser. Alors après, il y a 12 000 versions, hein, au premier mort, au coucher du soleil, etc., etc. Et quand c'est fini, voilà. Et
on là, y tu donnes l'exemple du Ganigar pour montrer que ça peut avoir un niveau de violence
alors,
extrêmement...
Alors, dans ces trucs-là, il peut y avoir, il y a toutes les versions possibles. Hein, il y a des versions où la violence est vraiment très, très contrôlée, à la fois parce que on a deux paramètres, hein, pour diminuer la violence dans les duels collectifs. C'est un, on dit aux gens, bah, on n'a pas le droit à telle arme, telle arme, telle arme, ou on n'a pas le droit à tel coup, ou une fois qu'il y a des blessés un peu sérieux, on arrête. Enfin, voilà, il y a tout ce genre de trucs. Et l'autre combine, à laquelle on pense moins spontanément, c'est de dire que tout le monde ne se bat pas et qu'on va se battre par représentant interposé. Et quand tu parlais des Sabines, la guerre entre Rome et Albe, sauf erreur, enfin c'est tout ça est légendaire, mais enfin, se serait soldé par un duel entre trois Romains et trois
les Horaces
et les Curiaces. Voilà. D'ailleurs, je me demande, c'est pas les Horaces plutôt que les Horaces, mais c'était un détail historique
dans le nouveau français.
Je sais pas, peut-être pas lui, Maître Capello, mais que sa mémoire soit en paix.
Alors, si tu me permets, avant de te laisser continuer, moi je trouve que l'exemple que tu as pris tout à l'heure de l'arme atomique, c'est intéressant pour bien comprendre en quoi est-ce que, malgré le fait que les armées vont avoir tendance à partir du principe que personne ne va utiliser l'arme atomique, on peut quand même parler de guerre discrétionnaire. C'est-à-dire que l'utilisation de l'arme atomique, c'est pas tant quelque chose dont on a convenu à l'avance que quelque chose dont on se dit sans en avoir convenu. Que si l'un l'utilise et que l'autre réplique, c'est pas souhaitable pour personne dans l'humanité.
Voilà. Alors encore une fois, hein, les faits sociaux sont toujours plus compliqués que les théories, et de toute façon, les faits en général, il n'y a pas que dans les sociétés. On oublie toujours que la physique, elle est simple, parce qu'on parle de la théorie physique, mais enfin, quand on observe les phénomènes avec nos yeux à nous, la loi de la gravité, elle se manifeste de tas de façons très différentes, et s'il a fallu des dizaines de millénaires avant de la dégager, c'est quand même que c'est justement ça sautait pas aux yeux. Mais effectivement, les États modernes ne vont pas se servir de l'arme atomique. En partie parce que, entre guillemets, ça ne se fait pas, mais enfin, c'est comme plein de trucs qui se font pas, ça se fait pas jusqu'au jour où quelqu'un le fait. Et il y a quand même, les États-Unis l'ont quand même déjà fait deux fois, hein, enfin, voilà.
Hiroshima et
Nagasaki. Ben, absolument. Et, en revanche, il y a effectivement le fait que, de fait, on va pas s'en servir. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que quand l'Ukraine, aidée par les Occidentaux, affronte l'URSS. Je suis d'un autre siècle. affronte la Russie, aidée éventuellement par d'autres. Ou quand il y a une guerre, les exemples hélas ne manquent pas. Même si éventuellement, les adversaires respectent un certain code, je sais pas s'il faut dire morale ou militaire ou stratégique ou etc. Guerre, oui. Et n'emploie pas toutes les armes qui seraient en théorie possibles. Il n'empêche que personne ne sait à l'avance quand est-ce que ça va finir cette affaire-là, parce que les deux adversaires se battent tant qu'ils ont envie de se battre. Voilà.
Et qu'ils en ont les moyens.
Or, et c'est là où c'est important de, justement, de faire de la classification, on se trouve devant des confrontations humaines, alors pas dans les sociétés étatiques, ça a complètement disparu des sociétés étatiques, mais dans les sociétés pré-étatiques, on l'a été, parce qu'évidemment aujourd'hui il n'y en a plus, mais on a été témoin de confrontations où c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait, et où par avance les gens étaient d'accord pour dire quand il va se passer ça ou ça ou ça, crac, c'est bon, on arrête et c'est plié et on n'y revient plus. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, que c'est des affrontements qui obéissent à des logiques quand même fondamentalement différentes.
Et en parlant de logique fondamentalement différente, il y a aussi l'idée, donc comme tu l'as dit, la guerre s'est imposée à l'autre par sa supériorité militaire, sa volonté, voilà. Et ça se distingue donc de la justice, donc du feud dont on a parlé tout à l'heure, qui lui vise plutôt l'équilibrage et le rétablissement, voilà, d'une forme d'équilibre comptable entre
tout à fait.
Entre des parties. Et ça, c'est ces deux types, on va dire, de conflits, c'est des conflits qui visent donc à résoudre. Voilà.
Dans la guerre comme dans la vendetta, il y a l'idée que si on arrive à nos fins, il n'y aura plus besoin de se battre. Voilà. C'est ça le point commun.
Et donc ça, tu le distingues d'un autre groupe, une autre catégorie encore de conflits, qui, lui, ne vise pas à l'arrêt des combats.
C'est... Absolument. Alors, j'ai donné le cas du Tinku tout à l'heure, mais il y a tout un tas d'autres conflits qu'on connaît, en fait, assez bien. Enfin, on a appelé ça parfois le raid. Alors, ce qui est un mauvais nom, parce qu'un raid, c'est un type tactique militaire où on fait un coup de main, voilà, et on peut très bien faire des raids dans le cadre d'une guerre.
Préfères le mot razzia, toi.
Alors oui, enfin moi j'essaye justement de. Alors la razzia c'est moins ambigu effectivement parce que on sait que c'est un raid qui a pour but de s'approprier, de faire du pillage.
C'est du
pillage par des moyens. Alors le vol c'est pas forcément à main armée, alors que la razzia c'est un main armée. Voilà.
Souvent, oui.
Alors, en tous les cas, effectivement, je pense que le plus simple, c'est de se dire que, par exemple, on fait de la chasse. Voilà. Donc, quand on fait la chasse au lapin, on fait pas la guerre au lapin. C'est aussi bête que ça. Si un jour on fait la guerre au lapin, il y a l'idée que il faut qu'on arrive à un résultat qui change fondamentalement nos rapports avec les lapins. Je veux dire, soit on les extermine, soit on les a empêchés d'arriver dans tel territoire, etc. Mais voilà, ça sera plus pareil entre les lapins et nous une fois qu'on aura gagné la guerre. Quand on fait la chasse aux lapins, c'est absolument pas ça le problème. Notre problème, c'est pas d'aboutir à un nouveau rapport avec les lapins, c'est de dire, bah voilà, j'ai besoin de quelques lapins pour me faire un bon civet, etc. Crac, j'y vais, je prends mes lapins et je recommence la semaine prochaine si j'ai envie. Alors après, si je suis un chasseur prévoyant, j'évite d'y aller trop souvent. Si je suis un chasseur imprévoyant, ben, je tue tellement de lapins qu'un jour il n'y en a plus. Mais bon,
et
voilà.
Si je suis le roi, j'ai même un espèce d'enclos où je peux reproduire des animaux, je les fous dans la forêt.
Absolument,
et puis
absolument. Il n'y a pas que le roi, je pense qu'il y a un certain nombre de chasses en Sologne aujourd'hui, oui. Ou la galinette cendrée, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà. Alors, pour en revenir plus sérieusement aux chasses qui se font entre humains, c'est quoi les chasses qui se font entre humains? Ben, la première grande catégorie, ben, c'est la razzia, où on va donc faire une opération militaire, armée, éventuellement en tuant des gens, pas toujours d'ailleurs, des fois il y a une forme, même pas. Les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, dans les plaines, étaient des grands spécialistes de la razzia des chevaux, et il y avait même ce côté que la belle razzia de chevaux, c'est celle qu'on faisait sans avoir tiré un coup de flèche ou un coup de feu, etc. Et on avait réussi à barboter les chevaux de l'autre au nez à sa barbe. Voilà, enfin, il n'a pas forcément beaucoup de barbe, mais enfin, bon, voilà, c'est l'expression qui veut ça. Donc on peut voler du bétail, on peut voler, évidemment, piller des biens. Alors le mot razzia, rappelons-le, est un mot arabe, hein, et nous vient donc des bédouins de l'Arabie qui avaient érigé ce système de pillage mutuel en une espèce de, comment dire, de De fait de société, ah oui. Alors, au passage, quand même, juste pour dire, parce que il y a pas que les gens exotiques, hein, dire, nos braves germains hein, pré-étatiques, il y a une phrase de Tacite, donc un auteur romain, qui est absolument délicieuse, et qui dit, il considère comme, alors je le cite de mémoire, hein, mais enfin, il considère comme un déshonneur le fait d'obtenir par la sueur ce qui peut s'obtenir par le sang. Autrement dit, celui qui obtient quelque chose par son travail alors qu'on peut le piller, c'est vraiment un moins que rien, un lamentable, etc. Donc on peut piller des biens, piller du bétail, on peut aussi piller des gens, voilà. Alors, si, j'en parle longuement dans le bouquin. Cela dit, le rapt de femmes, je le trouve pas tant que ça comme objectif principal des opérations, et ça c'est aussi une petite, comment dire, je m'inscris un peu en faux contre un certain nombre de choses qu'on lit, c'est-à-dire que dans les sources, je trouve très souvent des cas où les gens profitent d'une opération militaire pour, à titre individuel, piquer une femme ou deux, etc. Piquer, mais des opérations, même de razzia, destinées réellement à voler des femmes dans le groupe d'à côté, j'en ai pas tant que ça dans les données. Donc c'est un peu contre-intuitif. En tous les cas, bah, une razzia bien connue, c'est la razzia d'esclaves, hein, où on va aller prendre des gens pour les foutre en dépendance dans sa propre société. Et puis il y a une dernière sorte de razzia, alors beaucoup plus inattendue, mais qui a fait mes délices, et à laquelle j'ai consacré un chapitre entier. C'est la chasse aux têtes. Alors ça, c'est quand même un truc, a priori, extrêmement étonnant pour nous. C'est ces opérations militaires qui ont pour seul but de ramener des têtes. Alors des têtes ou des dents ou des scalpes, etc. Mais enfin, on va dire chasse aux têtes pour faire simple. Et avec l'idée que la tête que tu ramènes, c'est pas juste un trophée. Hein. C'est pas pour dire j'ai été un grand guerrier et voilà la tête de l'ennemi. Ça, c'est très 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 banal. Hein. Tout le monde fait ça. Enfin, je veux dire, dans les sociétés pré-étatiques, c'est vraiment une tarte à la crème, si j'ose dire. Mais la chasse aux têtes, c'est autre chose. C'est le but de l'opération militaire, c'est de ramener des têtes. Parce que la tête a des pouvoirs magico-religieux. Donc la tête fait grandir les enfants, alors liste non imitative, hein, rend les femmes fécondes, multiplie le gibier, fait pousser le riz dans les rizières, repousse les maladies, etc. etc. Ouais,
c'est doliprane, quoi.
C'est plutôt l'hydroxychloroquine. Hein, voilà. Donc ça marche pour tout. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on rencontre dans un certain nombre de sociétés en ethno. Et c'est donc très étonnant parce qu'on voit des sociétés humaine, alors pas se faire la guerre, c'est pas de la guerre, mais en tous les cas, chasser une ressource qui est parfaitement imaginaire. Et donc là, il y a une petite énigme en tant que matérialiste, ça m'a évidemment chatouillé. Comment se fait-il que des sociétés en viennent à imaginer que prendre la tête de quelqu'un et la ramener et faire un certain nombre d'incantations, de rites, etc., etc., va amener de la prospérité et de la fécondité au village.
Et alors, réponse ?
Alors, réponse, je tiens à dire que d'abord, aussi curieusement que ça puisse paraître, il n'existe nulle part un livre qui avait essayé de traiter la question de la chasse aux têtes d'une manière générale. Alors c'est très surprenant parce que avec le cannibalisme, on va dire, c'est quand même les deux grandes traits culturels marqueurs de la sauvagerie, de la barbarie aux yeux des occidentaux, etc. Les chasseurs de têtes, c'est quand même un truc. Voilà. Eh bien, il y a des anthropologues qui ont fait des fois des études extrêmement poussées sur la chasse aux têtes à tel endroit, dans tel peuple, pourquoi ils le font, comment ils le font, etc. Et à ma connaissance, mais je pense que j'avais quand même bien fait le tour, il n'y a jamais eu d'études synthétiques sur la chasse aux têtes. Alors, il me semble que un dénominateur commun qui marche assez bien, c'est que derrière tout ça, il y a l'idée que la vie existe en quantité fixe dans l'univers. Nous, on vit dans un monde, d'une part, quand même assez largement scientifique, enfin avec des connaissances scientifiques. On vit d'autre part dans un monde en croissance démographique, en croissance économique. Enfin, pour combien de temps, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, voilà.
Oui, c'est pas les ressources.
Mais en tous les cas, voilà.
vit dans un monde aux idées modernes, disons.
Dans le passé, les gens avaient, comment dire, une vision du monde beaucoup plus statique que la nôtre, parce que ils avaient, bah, évidemment, ils étaient dans une réalité où, bon an mal an, la quantité de population, la quantité de biens matériels, etc., ne variait pas de manière perceptible. Hein, voilà. Bon. Et donc, il y a cette idée qui est, me semble-t-il, qui se dégage d'un certain nombre d'ethnographies, que la quantité de vie dans le monde est fixe. Et donc, si tu es malin, entre guillemets, tu vas pouvoir aller chercher de la vie. Alors, avec des fois cette nuance qu'il ne faut pas aller la chercher trop loin. Alors, évidemment, pas trop près, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Si tu te prends de la vie à toi-même, tu vas, par définition, pas pouvoir t'en ajouter. Mais si tu la prends trop loin, tu peux rien en faire. La vie qui est trop loin, c'est pas de la vie comme nous, voilà, c'est pas assimilable. Donc, tu vas aux franges de ta société. Et là, si tu ramènes de la vie et que tu fais ce qu'il faut, tu vas transformer la vie des autres en vie à toi. Voilà. Et il me semble que c'est un ressort qu'on retrouve dans pas mal de pratiques de chasse.
Finalement, tu nous fais un réagencement scientifique de la classification hegélienne entre les sociétés figées et les sociétés...
Alors, je connais pas cette classification-là, mais bah, peut-être, bon, je sais pas.
Un point
mais...
de marxisme au moins. Pour
c'est possible. Je m'en fous, il m'en reste quelques-uns quand même.
Et alors moi, en lisant ce livre, j'ai découvert quelque chose d'assez... bon alors, qui m'a un peu dérouté. Je sais pas si tu sauras beaucoup en parler ou pas, mais enfin... Je voulais quand même le mentionner. J'ai découvert qu'il y avait des animaux qui pratiquaient l'esclavage. Donc, et tu donnes un exemple des fourmis, je crois.
Oui, absolument. Il y a des fourmis esclavagistes. Alors, le terme de esclavagiste est vraiment, est évidemment, comment dire,
problématique,
discutable, où, voilà. Tout ce qu'on veut. Et déjà, même en réalité, au sein des sociétés humaines, les spécialistes s'arrachent les cheveux pour savoir si l'esclavage en général, ça existe. Quelle définition on lui donne, à partir de quand on peut parler qu'un rapport de dépendance c'est de l'esclavage ou pas. En tous les cas, il y a des espèces animales, et en particulier les fourmis, qui vont aller attraper, alors, sauf erreur, alors là c'est plus vraiment ma partie, mais enfin, sauf erreur, c'est uniquement dans le monde animal non humain, en direction d'autres espèces. Hein, donc c'est pas des individus de ta propre espèce que tu mets en dépendance, mais oui, tu vas aller choper des individus d'une autre espèce et tu vas leur imposer, comment dire, une situation où de fait tu vas profiter d'eux objectivement. Hein, et effectivement, la mise en dépendance. Alors parlons pas d'esclavagisme, parlons de mise en dépendance ou de subordination. Et effectivement, on a dans le règne animal un certain nombre d'exemples d'espèces qui vont comme ça piquer des individus à d'autres espèces, mais y compris à une échelle assez significative. Hein, c'est pas un coup comme ça de temps en temps. Hein, c'est vraiment ça fait partie de la manière dont ces sociétés animales fonctionnent. Et effectivement, et je crois même que les fourmis, il y en a qui élèvent des pucerons, hein, ou un truc comme ça. On a même parler de fourmis éleveuses, etc. Alors, c'est là où, justement, on a toute la difficulté des mots. Jusqu'à quel point le mot veut dire quelque chose, jusqu'à quel point il nous cache quelque chose, mais en tous les cas, le phénomène a été parfaitement identifié.
Voilà, donc c'est bien de revenir sur l'idée qu'à poser des mots comme ça, ça pose des problèmes.
Tout à fait.
Car c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur. Donc là, on a parlé d'une première, on va dire, lignée de classification, c'était est-ce qu'on vise ou non à résoudre un conflit. Donc on a distingué voilà, les guerres, les feutres qui servent à résoudre des conflits et d'autres formes de conflits qui sont non résolutives avec l'exemple des razzias.
Absolument.
Bon alors, il y a d'autres exemples sur par exemple les vengeances sans fin, ou quand on est endeuillé, et qu'on estime, alors que l'autre a rien fait, qu'en fait, si, c'est sa faute, et que donc, du coup... On...
Non, c'est pas sa faute, c'est ça va me faire du bien.
Ouais, ça va me faire du bien, oui, voilà.
Oui, effectivement,
ça va
me faire du bien alors, il y a des motifs de conflits... qui ne sont pas destinés à ramener la paix, qui sont pas des chasses. Alors j'en donne deux. Alors encore une fois, la liste n'est pas limitative. Et si ça se trouve, il y a des cas ethnographiques qui m'ont échappé. Et puis peut-être qu'il y a eu des cas dans le passé, dans des sociétés disparues, qui faisaient des choses encore différentes et qu'on n'aura jamais pu l'occasion d'observer. Mais en tous les cas, il y a au moins deux autres situations. On a des cas de vengeance effectivement sans fin. Donc la vendetta, c'est on se venge avec l'idée que quand on aura équilibré les morts, bah c'est bon. Le seul truc, c'est qu'évidemment, les deux camps étant pas d'accord sur le nombre des morts, c'est ça qui fait que ça dure. Mais il y a l'idée quand même que si un jour on se réunit, on discute, on peut arriver à refaire les comptes et à décider comment on les solde. Alors qu'il y a des cas où clairement les gens disent non, ce sont nos ennemis depuis la nuit des temps, ça sera nos ennemis jusqu'à la fin des temps. On compte plus les points, un peu comme les gamins qui jouent au foot sans compter les buts. Hein. L'intérêt, c'est de jouer. Hein, voilà, c'est de se planquer des buts mutuellement. Et donc les gens disaient, voilà, c'est on se venge d'eux, ils se vengent de nous, et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas censé finir. Et effectivement, on a aussi des expéditions de deuil, en particulier en Amérique du Nord, où les gens disent, voilà, j'ai le cœur gros. En gros, voilà, j'ai quelqu'un qui est mort dans ma famille, j'ai du chagrin. Comment ça va aller mieux? Je vais aller tuer 2-3 ennemis et ça ira mieux. Et nous, on a l'habitude de gens qui se font du mal à eux-mêmes en cas de douleur. Enfin, il y a pas si longtemps en Occident, des femmes qui s'arrachaient les cheveux. On a des cas en ethnographie où il y a des femmes qui se coupent des doigts comme ça en signe de deuil, etc. Bon, après tout, soulager sa peine en allant tuer quelqu'un qu'on n'aime pas plutôt qu'en se faisant du mal à soi-même, vous dites, c'est quelque part, c'est pas plus absurde. Voilà.
Et donc, le point commun de tous ces types de conflits dont on a parlé dans cette seconde partie d'émission, c'est qu'ils étaient ce que toi t'appelles discrétionnaires, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limites convenues entre eux. Et je voudrais donc, en troisième partie d'émission, qu'on revienne sur les conflits conventionnaires, donc c'est-à-dire ceux où il y a entre les deux parties une entente sur les modalités de l'affrontement. Mais je propose qu'on y revienne après une deuxième coupure musicale, si vous voulez bien.
Qu'est-ce qu'il y a ? Pipi.
Ah bon ?
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur Internet pour le reste du monde. Je suis toujours en compagnie de Mariama, François et Christophe pour notre troisième et dernière partie d'émission sur Cassius Belli, la guerre avant l'État. Après un inventaire, ma foi, prodigieux des conflits à caractère discrétionnaire, nous comptions revenir maintenant sur ceux à caractère conventionnaire, c'est-à-dire ceux où les différentes parties impliquées dans le conflit sont entendues au préalable sur les modalités de celui-ci. Alors, comment est-ce que distingues dans les conflits conventionnaires déjà le caractère conventionnaire, comment il se donne à toi dans les sources?
Ben, encore une fois, souvent c'est marqué par des règles assez strictes sur la manière dont le conflit se déroule. Donc on va avoir on se retrouve à tel endroit, tel jour, on sera tant. En général, souvent d'ailleurs, autant de chaque côté ou pas très différemment. On aura le droit à telle arme, pas à telle autre. On aura le droit de taper tel genre de coup, pas tel autre. Et par-dessus tout, on est d'accord à l'avance sur comment ça finit. C'est, je le disais tout à l'heure, mais j'insiste, c'est ça, en cas de doute et de caractère un peu parfois hybride, c'est ça vraiment le critère absolu. Voilà. Alors après, ça donne des choses effectivement à la physionomie assez variée. Des fois, on se tape dessus entre groupes entiers, des fois, on se tape via des représentants. Des fois, il y a des systèmes où on se tape tous en même temps. Il y a des systèmes, c'est chacun son tour, un peu comme au baseball, hein. Il y a un système de rotation des différentes équipes. Il y a des choses où la violence a été extrêmement limitée, d'autres où c'est alors plus rare, mais qui existent, où c'est carrément du open bar et qui peuvent être extrêmement violents. Ce qui, soit dit en passant, montre que le critère qui saute aux yeux, les premières idées sont pas toujours les bonnes, ouais. et on pourrait se dire, la bonne idée pour classifier les conflits, c'est entre ceux qui sont pas très meurtriers et ceux qui le sont beaucoup. Non, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Voilà.
Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez convaincant sur cette partie, vraiment, où tu montres en fait que un conflit peut très bien avoir pour but de résoudre la question et être conventionné, et pourtant être extrêmement violent, quoi. Mmh. Et même provoquer des morts, et etc.
Il y a au moins un cas australien où à l'échelle de ces sociétés-là, c'était absolument redoutable. Oui.
Et est-ce que tu pourrais donner, alors, des exemples pour les deux cas, pour que ça parle, peut-être un exemple pour chaque?
Oui, je les ai un peu déjà donnés. Hein. Tout ça, en gros, c'est du duel collectif. Hein. Appelons ça comme ça. Bon. Ouais. Il y a du duel collectif judiciaire. Donc, on a une embrouille. Et on va la résoudre. Alors tiens, soit dit en passant, un collègue australien m'a fait passer il y a 3 semaines de ça un témoignage absolument extraordinaire qui m'avait échappé, d'un aborigène qui écrit aux autorités coloniales à la fin du 19e siècle en disant voilà. Il s'est trouvé que mon fils a été volé une femme dans la tribu d'à côté. Bon, ça se fait pas, on est bien d'accord. Mais nous, justement, on a notre façon à nous de régler ça. Voilà, on fait un grand duel, on se dispose sur des lignes comme ci, comme ça, et à la fin, celui qui gagne, il prend la femme et il la ramène chez lui. Normalement, alors, le mec, avec un brin de mauvaise foi, évidemment, normalement, il n'y a pas de mort, hein, il n'y a pas de blessé. Moi, j'en ai fait des centaines, j'ai jamais eu une égratignure, etc. Alors, c'est vrai, il y a 3 mois, ils en ont fait un, les mecs, il y a eu un mort. Mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il bougeait pas assez vite, hein, parce que normalement on évite les lances, etc., etc. Et il dit aux Blancs, si vous nous interdisez de faire ça parce que ça fait des morts, ça va être pire parce que ça va déclencher une vendetta. Et donc il supplie les Blancs de les laisser régler le truc à leur façon pour justement éviter que le sang ne coule de façon pire que ça. C'est hyper intéressant. Alors, donc il y a ces duels judiciaires, encore une fois, on a une embrouille avec des gens qu'on connaît. On a un système qui permet à la fois, alors c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est plus pacifique que si on se connaissait pas, qu'on ne pouvait pas se blairer et qu'on se faisait donc une modalité, disons, open bar. Mais en même temps, c'est quand même, on se tape dessus et on va éventuellement faire des morts. Mais voilà, c'est une demi-pacification des rapports sociaux entre groupes. Et puis, il y a des duels collectifs qui n'ont pas pour but de ramener la paix entre les deux groupes.
Et là, c'est des conflits propitiatoires.
Alors, propitiatoire, voilà. Par exemple. Propitiatoire, c'est un mot un peu savant pour dire qui vont, disons, nous amener un bienfait. Je rappelle au passage que les Jeux Olympiques de l'Antiquité avaient pas pour objectif avoué la compétition. Ils avaient pour objectif avoué de faire plaisir aux dieux, et si le spectacle était bien, les dieux allaient s'en réjouir, et donc les dieux allaient nous apporter des bienfaits, etc. En Amérique du Nord, on avait des rencontres qui opposaient des centaines d'Indiens dans les plaies, enfin dans le coin du Nord-Est en particulier, autour d'un jeu que les Blancs ont appelé le lacrosse, et qui avait là aussi pour but de changer la météo quand elle était défavorable, de faire revenir le gibier quand il s'était barré, etc., etc. Bref, et je parlais au début de l'émission du Tinku, qui a pour but de verser le sang, etc. Donc voilà, il y a des systèmes de duels collectifs où l'objectif, c'est pas de ramener la paix, où l'objectif est différent. Voilà.
Donc, avec cette classification entre ce qui a pour but de résoudre des conflits et ce qui n'a pas pour but d'en résoudre, et ce qui est conventionnaire et ce qui ne l'est pas, on a donc une classification de tout un tas de choses qui ne sont pas la guerre.
Absolument.
Et on sait donc maintenant que la guerre, c'est quelque chose qui vise à résoudre un conflit entre deux parties et qui n'a pas de convention préétablie.
Et où, en plus, la résolution se fait par qui va gagner.
Voilà.
C'est troisième
élément de définition de la guerre. Et donc, là, c'est toute la première partie du livre sur toutes les données donc, que tu as récoltées.
On ne va jamais avoir assez de temps pour faire la deuxième partie dans l'émission. Hein,
malheureusement.
Alors, le but, ce n'est pas de faire tout le livre, c'est de donner envie
d'accord,
aux gens
d'accord.
de lire le livre.
On ne va pas divulgacher la fin du
on
livre.
On va dire qu'il y a des voilà. images aussi, alors.
En plus, voilà. Il y a des tableaux qui sont super.
Il y a des tableaux et des images.
Avec les tableaux. et donc après tu pars en quête des origines de la guerre, alors c'est là que tout se corse entre guillemets,
oui.
Parce que on en vient, bon alors pour les auditeurs, moi j'ai une formation en histoire à la base, hein, j'ai fait une licence master d'histoire, j'ai eu des cours d'archéologie et de préhistoire et de proto-histoire, et donc moi j'ai toujours été frappé évidemment par la quantité de conjectures qu'on est capable de faire à partir de trois cailloux de feuilles de salade fossilisées. et donc c'est un peu là ce qu'on est un peu obligé de faire. Hein.
Alors je voudrais dire que la quantité de conjectures qu'on est capable de faire à partir de quelques textes qui en général ne concernent que les classes sociales les plus favorisées des sociétés historiques, en réalité c'est pas mal non plus. Hein,
et c'est pour ça que je suis
bien
d'accord.
Parce que la documentation écrite sur Sparte, par exemple, parlons-en. Hein.
Et c'est peut-être pour ça que Paul Veyne avait raison quand il disait que l'histoire, c'était de la littérature un peu...
Alors, ça ne devrait pas l'être, mais...
Bon, moi, je ne défends pas ma part.
Alors, je dirais bien que, effectivement, c'est un point que je souligne, c'est que l'archéologie n'est pas très bavarde. Et justement, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on ne sait pas. Voilà, et du coup, j'essaye d'être prudent systématiquement quand je raisonne. Pas le seul, hein, comme tout scientifique qui se respecte, vaut mieux savoir ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne peut pas dire plutôt que de dire une bêtise. Et effectivement, alors la grande question avec l'archéologie de la guerre, c'est que, ou des conflits collectifs en général hein, d'ailleurs, c'est que plus on remonte vers le passé... moins on trouve de traces de conflits collectifs. Ça, c'est une évidence, tout le monde est d'accord là-dessus. La grande question, c'est est-ce qu'on trouve moins de traces parce qu'il y en avait moins, ou parce que même il n'y en avait pas du tout, ou est-ce qu'on retrouve moins de traces parce que si ça se trouve, il y en avait tout autant, mais qu'ils ont laissé moins de traces pour un certain nombre de raisons.
Oui.
Et c'est ça qui est évidemment, la réponse est évidemment pas simple.
Et alors donc, pour aller un petit peu vite, tu proposes, quand tu essayes de t'intéresser aux origines de la guerre, trois types de preuves, donc archéologiques, où grosso modo tu mets en avant le fait qu'on a des traces d'une part d'outils, ou en tout cas d'armes qui n'ont pour but que des buts homicides, et d'autre part des squelettes ou des crânes qui marquent des traumatismes de conflits et de guerre entre êtres humains. Deuxièmement, tu fais appel à l'ethnologie où tu permets de montrer une très grande pluralité des conflits et que du coup on ne peut pas tous les résumer à la guerre, donc ça c'est aussi très bien démontré dans la première partie du livre. Et dans les comparaisons interespèces sur la partie éthologie, tu montres qu'il y a des conflits collectifs à l'intérieur de mêmes espèces animales et entre différentes espèces animales, avec des choses qu'on appelle des guerres, par exemple, je sais pas, entre les chouettes et les aigles, par exemple, qui durent depuis très longtemps. Et alors, moi, j'avoue que là, sur cette partie-là, oui, c'est là où je voulais te poser la question directement, c'est que je trouve que les données que tu montres, elles sont intéressantes parce qu'elles nous rapportent tous à la fois au phénomène guerrier et en même temps aux limites des preuves. Mais j'ai eu du mal avec comment tu passes de ça à la conclusion que quand même, on peut dire que la guerre avant l'État, c'est un phénomène qu'il préexiste. Après, tu es prudent parce que tu donnes quand même différents types d'âge. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas au paléolithique, le mésolithique, l'âge de bronze. Voilà, il y a des datations qui sont différentes. Toi, au final, comment tu te positionnes sur cette question-là et comment tu en arrives à ce positionnement?
Oui. Alors, clairement, comment dire, je pense que les comparaisons interespèces, en l'occurrence, ne nous renseignent pas beaucoup. Elle nous renseigne juste sur le fait qu'il n'est pas du tout aberrant et pas du tout propre à l'homme que des groupes d'une même espèce aient des relations hostiles. C'est même plutôt la règle que l'exception, et il y a même un aphorisme un peu simplificateur qui dit les chimpanzés ont inventé la guerre, mais les humains ont inventé la paix. Et si les humains, si les humains ont une originalité, c'est plutôt justement celle d'être capable d'avoir des relations pacifiées entre groupes. Voilà. Bon, donc je renverse un petit peu le truc.
Qui c'est qui dit ça?
L'aphorisme, c'est un primatologue et anthropologue américain qui s'appelle Wrangham. Alors, c'est il y a un petit côté slogan hein, là-dedans, parce que c'est pas chimpanzés qui ont inventé, etc. Mais l'idée de fond, elle est juste. Les humains, c'est la seule espèce animale où les groupes peuvent avoir des relations de coopération durable. Et il n'y a aucune autre espèce...
Mais c'est aussi la seule espèce qui fait souffrir pour le plaisir de faire souffrir.
Non, ça c'est faux.
Alors ça, pour le plaisir...
Les orques, par exemple.
Pour le plaisir, j'en sais rien.
Les orques, ils ont inventé la torture, alors.
Les orques, ils s'amusent des fois à faire souffrir des phoques, n'ayant pas pour but de les manger ou d'en avoir une quelconque utilité, ils le font juste pour le plaisir.
Mais je crois que la cruauté n'est pas un monopole, humain. Alors, deuxièmement, l'archéologie, elle n'est pas très bavarde. Mais elle nous dit quand même que on a quelques sites qui montrent que des conflits collectifs, guerre ou pas guerre, hein, mais des conflits collectifs homicides, il y en a eu, y compris avant l'agriculture, que ça remonte loin. Alors, beaucoup, pas beaucoup, on n'en retrouve pas beaucoup, mais on en retrouve, voilà. Bon. Moi, mon grand argument, il est ethnologique. Et en particulier, donc, j'avais fait tout un travail et un bouquin sur les aborigènes australiens, qui sont le plus vaste ensemble de chasseurs-cueilleurs qu'on ait jamais pu observer, qui étaient donc des chasseurs-cueilleurs en contact avec aucun peuple agriculteur et a fortiori étatique, au moment où les Blancs foutent le pied sur le continent en 1788, et où on a des dizaines et des dizaines, j'ai une base de données avec plus de 200 cas identifiés, d'affrontements collectifs. Alors, pour certains, des duels judiciaires, et pour d'autres qui sont clairement des guerres avec même comme objectif l'extermination du groupe adverse. Je ne vois pas, alors c'est en science, on essaye de raisonner avec l'économie des hypothèses, hein, le fameux rasoir d'Occam. J'oppose ça aux gens qui disent les chasseurs-cueilleurs, par définition, ça peut pas faire la guerre, ou voilà, c'est pas assez nombreux, ça n'a aucun intérêt à la faire, voilà. Bon, c'est une idée qui a été souvent défendue.
Oui, tu réfutes l'idée que la guerre.
Ceux-là, ils la font. Voilà, ceux-là, ils la font. Et je vois pas pourquoi eux la feraient. Et que aucun peuple dans le passé ne l'aurait fait. Voilà, c'est ça mon argument.
Ok. Et donc du coup, pour
dis pas que tous les chasseurs-cueilleurs ont toujours fait la guerre tout le temps. Hein, c'est pas ça le truc. Je ne vois pas pourquoi ça aurait pas fait partie de la gamme des possibilités dans les relations entre les groupes humains. Voilà.
Parce que du coup, il y a un moment où tu poses la question du lien entre guerre et intérêt matériel. Et de la question, est-ce que la guerre se fait toujours par un intérêt matériel ?
Alors là, la réponse est clairement non. Et justement, je pense que trop souvent, les préhistoriens raisonnent en se disant que si les gens se sont tapés dessus, c'était pour se piquer des trucs. Ça ne marche pas, me semble-t-il, quand on prend justement l'ethnologie, qui est la seule à pouvoir nous donner quelques éclairages là-dessus. Très, très, très clairement, les Australiens et les autres chasseurs-cueilleurs, et même d'ailleurs, d'ailleurs un certain nombre de cultivateurs, on se bat pour autre chose que pour se piquer des ressources.
Des territoires d'ailleurs.
Et pas du tout des territoires, voilà. Et les gens même, y compris, ont des interdits religieux ou des craintes religieuses liées au fait de piquer le territoire de quelqu'un d'autre, qui est un truc considéré comme extrêmement hostile, extrêmement néfaste, et il faudrait être le dernier des fous pour vouloir, habiter sur un territoire qui n'est pas le sien, voilà, bon. Et alors, comme je suis quand même un tantinet matérialiste, il me semble quand même que l'état de l'économie, de la technique, etc., explique pourquoi les gens rentrent en conflit. Mais c'est pas un matérialisme, disons, étroit, qui dit que les gens se battent forcément toujours pour des richesses. Alors, oui. Nous, clairement, c'est ça que c'est devenu. Je pense que les sociétés étatiques et les sociétés de classe n'ont pas inventé la guerre. Par contre, elles ont clairement, petit à petit, inventé, ou en tous les cas généralisé, la guerre pour des objectifs économico-politiques. Mais c'est un peu un autre raison.
Ils ont inventé la propriété. Je crois que c'est lié, oui. Ça. Très lié.
Après, dans le bouquin, tu fais remarquer que la sédentarité et l'agriculture, dans tes données, ça semble être un marqueur d'augmentation quantitative de la quantité de conflits.
Je suis plus prudent là-dessus. Oui, c'est un marqueur d'augmentation archéologique. Donc clairement, oui, on retrouve plus de traces de conflits dans des sociétés d'agriculture sédentaire. Mais c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on en retrouve plus parce qu'il y en avait plus ou est-ce qu'on en retrouve plus parce que ces sociétés-là, par définition, laissent plus de traces. Voilà. Avec quand même se rappeler que beaucoup de choses ne laissent pas de traces archéologiques. Je le rappelle au passage, une bonne partie des batailles romaines de l'époque de César, on les a dans les textes. On n'a jamais été foutu d'en trouver la moindre trace archéologique. Donc on sait qu'elles ont existé, on sait qu'elles ont fait 20 000 morts, on sait que les gens étaient équipés avec des outils et des armes en métal, et pourtant on n'a jamais rien retrouvé. Alors vous imaginez bien, quand c'est des groupes de 40 chasseurs-cueilleurs avec des armes en matière végétale, et que éventuellement les morts ont été abandonnés aux bêtes sauvages ou bouffés par les vainqueurs, l'invisibilité archéologique de tout ça, elle est énorme.
Et alors, si je reste sur ton argument de dire qu'on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs où il y a des conflits qui sont d'une telle violence que ça va jusqu'à l'extermination du groupe adverse, et qu'on n'a pas de raison de penser que ça n'ait pas pu avoir lieu dans les sociétés préhistoriques, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de distinguer qualitativement la guerre comme est-ce pratique dans les sociétés du coup étatiques et les sociétés non étatiques? Et est-ce que ce saut qualitatif nous empêche pas d'utiliser le même concept pour parler des deux choses?
Je pense pas, effectivement. Alors moi, c'est pas une question à laquelle je me suis beaucoup intéressé là dans le bouquin. Je pense qu'on peut justement bien définir à titre général ce qu'est une guerre par opposition à des conflits qui sont autre chose que des guerres. Après, évidemment, au sein des guerres, on peut faire des... C'est exactement comme si en biologie, on disait intéressons-nous aux mammifères et par opposition du coup à toutes ces bestioles qui sont autre chose que des mammifères. Après, ça veut pas dire que les mammifères sont tous pareils. Et on serait amené à faire un certain nombre de sous-catégories. Donc évidemment que un premier aspect évident qui démarque la guerre étatique de la guerre non étatique, c'est l'obligation faite aux gens d'y participer. Dans une société non étatique, vous participez au conflit, alors de votre plein gré, entre guillemets, parce qu'il y a évidemment une pression sociale, et si vous y allez pas, dans un certain nombre de cas, vous êtes un gros nul. Mais par exemple, les Indiens d'Amérique, vous participiez à une... Alors, Geronimo, qui toute sa vie a essayé de remobiliser les gens et qui faisait des expéditions deux pauvres gars qui voulaient bien le suivre. Mais même dans des conflits plus larges des Indiens d'Amérique, un type disait « Moi, j'ai eu un mauvais rêve cette nuit et du coup, je rentre chez moi, etc. » Le chef de l'expédition n'a absolument pas le droit de le sanctionner, de lui reprocher, etc., etc. Évidemment, quand il y a l'État, c'est une autre musique, et là on vous demande pas votre avis, et vous avez bon. Donc il y a évidemment tout un tas de sous-catégories et de critères qu'on pourra adopter. Il n'empêche que, à mon avis, ça vaut le coup de se rendre compte.
Juste une question si tu m'autorises à t'interrompre. Il y a cette question de dans les sociétés non étatiques, par exemple celle de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu observer, toi tu dis si on n'a pas envie de participer à la guerre, socialement, dans les normes qui sont instituées, c'est pas répréhensible et ça n'a pas de conséquences, ou entre guillemets, pas autant que dans les sociétés étatiques, ou pas qualitativement de la même manière.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose dont on peut quand même affirmer avec certitude que c'est le cas dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs ?
Non. Comment dire ? C'est une généralité qui me semble raisonnable. Il faut être bien conscient des lacunes de nos données là-dessus. Hein, c'est vraiment. Alors, la guerre, c'est un des trucs les moins bien observés en ethnologie, pour une raison assez simple. Les ethnologues arrivaient quand même en général bien après les soldats, les missionnaires, etc. Et donc, ils arrivaient dans des sociétés où on avait interdit aux gens de continuer à faire les conflits tels qu'ils les faisaient avant. Sur les données dont on dispose, moi, j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir éventuellement une pression sociale, c'est-à-dire encore une fois, si t'en es pas, t'es quand même un peu un moins que rien quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pression sociale exercée y compris par les femmes, voire en premier lieu par les femmes, genre qui c'est qui m'a foutu un mec pareil, qui c'est qui va nous protéger, etc. Non, parce que le cliché de la femme douce et pacifique contre le mec violent, dans ces sociétés-là, il faut un peu oublier. Mais après, je ne crois pas avoir d'exemple donc dans ce type de société de sanctions juridiquement consacrées. Qui permettrait donc de tuer ou de voilà, comme il y a chez nous, où un déserteur, évidemment, il faut que la peine encourue soit pire que celle que le risque qu'il encourt si il accepte d'aller sous les drapeaux. Voilà.
Je laisserai de toute façon nos éditeurs le soin de se faire leur avis en lisant le livre qui comporte, même si on n'en a pas trop parlé, un dernier chapitre sur l'État. Absolument. Qui revient sur comment l'État s'arroge donc le monopole de la violence en interne sur les questions de justice et en externe sur les questions de guerre. Une conclusion pareil qui revient sur un ensemble de réflexions plus globales sur le sens et la direction de la guerre, donc ce sur quoi François nous parle.
Et juste pour finir, c'est pas parce que la guerre est très ancienne qu'elle est fatale.
Voilà, ça c'était le point que j'ai bien aimé à la fin du livre, c'est que tu n'es pas fataliste, tu dis voilà, c'est pas parce qu'un phénomène est observable sur le très long terme.
Les sociétés humaines ont évolué et elles continueront à le faire.
Donc voilà, j'invite les auditeurs à aller lire le livre.
Si, alors, le climat, le
livre, les éditions.
Je rappelle que le livre, c'est Cassius Belli, La guerre avant l'État de Christophe Darmanjat, à la découverte, collection Sciences sociales du vivant. Et c'est pas disponible à Publico, parce qu'on ne l'a pas à Publico, je crois.
On va l'avoir.
On va le commander.
On va l'avoir.
Merci.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, François et Mariama. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de les mains. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant. prends le juge, tu juges, c'est qui mon juge, t'as le gamin maribin. Je dis blousi, c'est mon voisin, il a rien au zizi tout dans les reins. Il mourrait donné un coup de fusil ou de me jouer à ça tout. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Pour amour, ma vie bougeait sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage.
Il avait son secret, le loup. Hé, 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les consoles en vie, ça va plus.
Faut tous sauver, faut se sauver, faut la prendre des décisions.
Coller une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gêne.
Finalement, c'est un peu sale qui est dans la vie, non ? Il tient à rien de
tout. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est pas une métaphore, c'est que t'as des phrases en train de brancher. Ça, c'est une métaphore.
C'est bonne que tu allais te cacher partout devant la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vois les dingues, je les soigne.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 fois de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts de façon puzzle.
On a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça porte du tout.
Tu marines dans le pinard comme des squelettes en l'eau. On sent plus de globules, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'as pas entendu, je suis entendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Où tu sors, où je te sors, mais pour la prendre une décision.
Écoute, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
Une alerte à la population est en cours.
De la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!
Salut les amanches et bienvenue dans votre Panam Not Dead du 9 décembre 2025. Avant la fin de l'année, on se fera deux émissions. Celle-ci est juste une juste avant Noël, je pense, où je préparerai un petit mix de punk de Noël. C'est le cas de le dire. Mais ce soir, on se fait un concert qui a eu lieu au Hellfest de 2019 d'un groupe français qu'on n'a pas encore passé dans Panam Not Dead, mais qui mérite le détour.